Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
Si la guerre en Ukraine, joint à la perspective de la présidentielle, ont mis au devant de la scène médiatique la question de notre dépendance énergétique, c'est en revanche un sujet qui anime nos deux invités depuis maintenant plusieurs années. En dépit des aléas de l'actualité chaude, eux n'ont en effet jamais perdu de vue l'urgence climatique. Nous recevons aujourd'hui Martine Vimard et Yves Moineau des centrales villageoises de la Lance. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes respectivement vice-présidente pour vous, Martine, et conseiller technique, si on peut dire ça comme ça, Yves Moineau, de la SAS pour Société par Action Simplifiée des centrales villageoises de la Lance, société basée à Montjoux qui s'est constituée en 2017. Vous étiez à cette occasion venu nous voir à Radiola. C'est un tout autre projet qui vous amène à notre micro aujourd'hui, à savoir celui de concilier opérations de désamiantage de vieux bâtiments et installations photovoltaïques. Alors avant d'entrer plus en détail sur les tenants et les aboutissants de ce projet et pour en saisir un peu mieux les ressorts, je propose de revenir sur l'activité des centrales de la Lance et sur ses actions en faveur de la transition énergétique. Alors, le réseau des centrales villageoises, déjà pour commencer, qui est d'envergure nationale et dont votre société est une émanation, est à l'initiative des parcs naturels régionaux de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il se donne pour objectif de contribuer au développement des énergies renouvelables à échelle locale, avec notamment la participation des habitants et habitantes, élus et collectivités, dans un souci de préserver le patrimoine paysager des territoires. On compte à ce jour 59 territoires engagés dans cette démarche, selon les chiffres du réseau national des centrales villageoises. Alors, si l'on devait résumer, quant à vous, l'activité des centrales de la Lance depuis sa création en 2017, ce serait le développement de cette production en énergie renouvelable à travers notamment l'installation de panneaux photovoltaïques. C'est là-dedans que vous êtes spécialisé. Est-ce que vous êtes d'accord ?
Tout à fait.
Et lors de votre première venue en 2017, soit peu de temps après la constitution de votre société, vous regroupiez 10 communes et comptiez 16 toitures à même de recevoir des installations photovoltaïques. Alors j'imagine que depuis l'activité a cru, est-ce que vous pourriez nous dire où vous en êtes ? Donc c'est-à-dire quelle couverture du territoire vous prenez à présent et combien de toitures vous avez pris en charge ?
Alors le territoire a été étendu, en fait il correspond maintenant tout à fait au territoire de la communauté de communes d'Ulfy-Bourdeau.
Donc je crois que c'est
21 communes, voilà. Pour ce qui concerne les installations, aujourd'hui, nous étions à 18 toitures équipées de panneaux photovoltaïques avec une gamme de puissance entre 9 et 36 kg. Mmh. Et la 19e dont on va parler aujourd'hui représente donc un projet de 99 kW crête de production.
Et vous nous disiez lors de cette première interview en 2017 qu'il fallait une vingtaine de toitures pour que votre modèle économique fonctionne. Alors avant de revenir sur le dit modèle économique, tout d'abord, est-ce que ça fonctionne? Alors ce modèle, est-ce qu'il est viable aujourd'hui?
Très bien, il fonctionne très bien avec 18 toitures et il fonctionnera encore mieux avec la 19e.
Donc ce modèle économique, on peut déjà dire que l'une des spécificités des centrales villageoises, c'est d'impliquer les citoyens sur un projet d'ordre commun, un projet collectif. Quelles sont les différentes formes d'engagement déjà qui sont proposées aux centrales villageoises ?
Alors à l'heure actuelle, nous avons 184 ce que nous appelons des sociétaires, qui sont l'équivalent d'associés, puisque nous sommes une société, donc ce sont des associés. L'action que l'on peut prendre, le minimum, c'est 100 euros. Donc il y a des gens qui prennent 100 euros et puis d'autres qui prennent beaucoup plus. Et dans les 184 associés, il y a 7 collectivités locales, 7 associations ou entreprises. Et le reste, ce sont des particuliers. Donc ça, c'est la première implication
proposée
des citoyens. Et après ça, on a des les actions en direction des économies d'énergie qui vont impliquer nos sociétaires ou d'autres personnes pour augmenter les possibilités, ouais. Non, les possibilités de faire des économies, de travailler dans le sens des économies d'énergie.
Il y a aussi la possibilité de juste louer son toit en tant que oui. citoyen d'une commune. Oui. Parce qu'en fait, l'idée, pour essayer de la résumer le plus simplement possible, les centrales villageoises proposent donc des regroupements à travers une société. Donc c'est une société, un regroupement de citoyens, collectivités, élus, etc., pour investir en fait des toitures dans les communes et installer des, notamment pour vous en tout cas, des panneaux photovoltaïques. Et en fait, ces installations-là sont prises en charge par la société qui est la centrale. Et donc, les actions dont vous parliez, elles permettent finalement de financer tous ces projets d'installation.
Tout à fait.
Tout c'est clair.
Fait.
Et donc, pour être un peu plus concret aussi, installer des panneaux solaires, ça a un coût. Qu'est-ce que ça représente, en fait, concrètement ?
Ça dépend de la
surface.
De la surface ouais. et de la capacité du toit et des panneaux. Ouais. Donc, ça peut aller de... C'est de 20 000 euros, mettons, sur un 9 kilos... Et sur le 99 kilos qu'on va faire, on est à 150 000 euros.
D'accord.
Donc après, vous avez toutes les gammes possibles.
Et là, les installations que vous avez installées jusqu'à présent, ça varie beaucoup ou c'est à peu près le même type de surface qui...
Ce qu'on constate, mais c'est un mouvement régulier depuis de longues années, c'est que les coûts d'installation sont en constante diminution.
Mais pourquoi ?
Parce que la filière photovoltaïque s'est mise en place et donc on a gagné sur les coûts comme sur beaucoup d'autres choses. Quand il y a plus de volume, les prix baissent. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les prix d'achat de l'électricité par EDF ou d'autres sont eux aussi en constante diminution et en fait s'adaptent plus ou moins pour que le marché reste équilibré.
Vous parliez de surface. Donc en fait, pour avoir une petite idée, ce qu'on appelle un 9 kg, une puissance de 9 kg crête, c'est 51 mètres carrés. Mm-hmm. C'est un toit de 50 mètres carrés.
D'accord.
Et le 99 kg, c'est quasiment 700 mètres carrés.
Ok, ça donne un bon ordre de grandeur.
Oui,
merci.
Ça parle mieux que le nombre de kilos.
Exactement. Et quelle contrepartie alors est proposée aux propriétaires des toitures ?
Un tout petit loyer.
Un tout petit loyer, donc c'est-à-dire
oui. C'est vraiment une démarche citoyenne. Mmh. C'est quelques centaines d'euros par an.
D'accord.
C'est très peu.
Oh. On peut peut-être signaler que nos propriétaires sont aussi sociétaires de la société,
de la centrale.
Donc engagés dans cette démarche par conviction. Quoi. Donc,
c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas forcément le profit
particulier.
Et
au bout de 20 ans, l'installation leur appartient. C'est-à-dire qu'au bout de 20 ans, ils vont continuer à encaisser les bénéfices de la vente de l'électricité, de leur toiture.
Quel type de toits sont les plus adéquates pour ces installations de photovoltaïque ? Est-ce que c'est plutôt des exploitations agricoles ? Est-ce que c'est autant des bâtiments qu'on peut retrouver dans des petits villages comme Adulfi ? Est-ce qu'il y a des critères en fait ?
Oui, alors je dirais que l'évolution des tarifs dont je parlais tout à l'heure fait qu'aujourd'hui on est plus intéressé par des toitures de grande dimension pour faire non plus des 9 kW, mais plutôt des puissances supérieures, 36 ou 100 kW. Parce que les critères la règle économique fait que,
plus
c'est intéressant. Après, il y a des critères plus techniques, qui sont premièrement l'exposition, donc orientation sud de préférence, mm-hmm. mais on admet aussi est ou ouest, ça marche bien. Là où on a souvent des contraintes, c'est quand il peut y avoir des masques des arbres proches qui peuvent considérablement perturber la production photovoltaïque. Et puis il y a un dernier critère aussi qui nous a parfois arrêtés dans nos projets, c'est la solidité des supports, des charpentes et l'état des charpentes sur lesquelles on pose les panneaux photovoltaïques.
Et puis vous parliez des petits villages comme Dieu le fit. Et là, on peut se heurter au règlement des bâtiments de France.
C'est ça, donc préservation aussi, est-ce que c'est une des volontés mises en avant lors de la création des centrales
et... les bâtiments de France sont assez exigeants
sur certains critères. Ouais. Mmh. Donc ça concerne plutôt des bâtiments en extérieur, des centres-bourgs.
C'est un périmètre de 400 ou 500 mètres, je ne sais plus, par rapport aux monuments historiques à protéger. Donc pour Dieu le fit, rue du Bourg, c'est pas la peine d'y penser, quoi.
Cette question nous mène à votre projet actuel qui vous a conduit à notre micro aujourd'hui, à savoir celui de concilier l'opération de désamiantage de vieux bâtiments sur le territoire et l'installation de photovoltaïques. Comment ce projet a-t-il été pensé? Ça répond d'ailleurs à un des inconvénients qu'on peut d'ailleurs reprocher aux énergies renouvelables qui nécessitent des fois des grands espaces. Et donc finalement, ce projet-là peut répondre en partie à ce souci.
Alors, à l'initiative du PNR, donc, l'idée était à la fois de traiter ces toitures...
Le PNR, Parc Naturel Régional.
Oui, des baronnies. Des baronnies provençales, je crois.
C'est ça.
Donc l'idée était de prendre en charge ces toitures qui sont amiantées, qui sont un petit peu une charge et dont on ne saura pas trop quoi faire dans l'avenir, parce qu'un jour ou l'autre, il faudra venir les désamianter. Et l'idée, c'était de rentrer dans un schéma gagnant-gagnant, où d'une part, pour le propriétaire, désamianter sa toiture donne de la valeur à son bâtiment. Et d'autre part, l'installation de panneaux photovoltaïques, on sait que pour l'environnement et pour la transition énergétique, on fait une bonne action, quoi.
Donc l'idée, c'est aussi de financer en fait les travaux de désamiantage via l'installation à long terme des panneaux photovoltaïques. C'est un peu ça le modèle pressenti, pas exactement ?
Pas tout à fait.
Ouais.
Pas tout à fait. Puisque, en l'occurrence, nous nous sommes rendus compte que les centrales villageoises ne pouvaient pas financer le désamiantage. Donc c'est le propriétaire qui finance le désamiantage avec une aide de 50% de la région Auvergne-Rhône-Alpes, on y reviendra peut-être. Et nous qui prenons en charge la nouvelle toiture... Puisqu'en fait, on enlève la toiture, il n'y a plus rien. Donc, on prend la nouvelle toiture et les panneaux photovoltaïques. Et il faut bien se rendre compte que ces panneaux photovoltaïques, dans 20 ans, seront la propriété du propriétaire du bâtiment.
Qui deviendra à son tour producteur d'électricité.
C'est ça. Combien de bâtiments ont été ciblés par cette étude sur le territoire de la communauté de communes Diolfi-Bordeaux?
800 approximativement. Ah, sur la communauté de communes,
oui.
Non. Sur le territoire du PNR, il y a une étude qui a été faite avec 800 bâtiments qui pourraient être éligibles et dans ce cadre-là. Mais sur la communauté de communes, on avait ciblé 2 bâtiments pour commencer.
C'est ça. En tout cas, vous, comme la centrale villageoise de la Lance, avait 2 bâtiments qui pouvaient la concerner. Donc, il y en avait un qui était basé à Vesque et l'autre à Montjoux. Un seul des 2 propriétaires est à ce jour intéressé par votre projet. Il s'agit de l'exploitation agricole de Claire et de Jean-Marie Chaston, qui sont spécialisés dans la production de plantes aromatiques et céréales bio. Quelle surface y représente leur bâtiment, alors ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure, d'ailleurs.
On est à 900 mètres carrés de toiture sur lequel on installerait 600 mètres carrés de panneaux photovoltaïques.
J'ai 1700. Et voilà.
Ah, c'était une catastrophe.
C'est terrible.
les chiffres. Et donc, d'un point de vue strictement économique, pour lui, qu'est-ce que ça engage alors économiquement, ces travaux de désamiantage? Vous avez les chiffres précisément ou pas?
Oui. Le financement des amiantages représente la somme de 22 000 euros hors taxes, dont la moitié est subventionnée par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
D'accord, à hauteur de 50%, c'est ça. Et qui fournit et installe ces installations, à la fois autant pour ce projet-là précisément, mais aussi de manière générale auprès des centrales villageoises de la Lance? Quelles sont les sociétés qui sont, à qui vous faites appel?
Alors, dans le cas de l'opération Chastan, la toiture sera refaite, donc bac acier installé par une entreprise qui s'appelle Bonhomme, qui est basée à Chabeuil, je crois. Mmh. Et ensuite, pour l'installation photovoltaïque, on a retenu une société qui nous a fourni une partie des toitures de la première tranche dont on parlait tout à l'heure, et qui s'appelle Soalis, et qui est basée sur Montboucher.
Entendu. À l'orée 2022, en janvier dernier, la région a elle aussi lancé un appel à projet de désamiantage, qui est aussi concilié à l'installation de deux panneaux photovoltaïques. Alors moi j'ai envie de vous demander quelle serait la différence en fait entre répondre à cet appel à projet de la région et faire appel plutôt aux centrales villageoises. Quelle est la différence?
Il n'y a pas de différence, ce sont deux choses différentes. L'appel à projet de la région a été mis en place suite à l'étude du parc naturel régional et des centrales villageoises du territoire, à cette étude qui aboutit à l'installation chez les Chastan à Montjou. Et suite à cette étude, la région a trouvé que c'était une bonne idée et a donc décidé de subventionner le désamiantage des toitures à condition qu'elles soient installées en photovoltaïque après. Donc nous pouvons, nous, installer du photovoltaïque sur des toitures désamiantées par leurs propriétaires avec une subvention de la région.
La région aussi.
Il n'y a aucun problème. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe avec les Chastan.
D'accord, oui. C'est-à-dire qu'on peut à la fois... Enfin, vous êtes autant lié à la région que autant d'autres sociétés peuvent faire
tout
appel
à
aussi à ces subventions-là.
Tout à fait.
Comment vous avez démarché monsieur et madame Chastan? Est-ce que la manière dont... Est-ce qu'ils ont facilement compris le projet, déjà des centrales de la Lance, de manière plus sur le long terme, en fait?
Alors, ce sont des sociétaires.
Qui étaient déjà impliqués.
Donc, qui étaient déjà impliqués, qui sont très, très impliqués avec nous. Et donc, ils ont été extrêmement à l'écoute de notre proposition. Voilà.
Et ce projet, avec donc leur exploitation de monsieur et madame Chastan, c'est une phase d'essai de cette opération de désamiantage. Mais cette opération, elle répond à un objectif qui est, lui, plus global, qui est donc de développer les énergies renouvelables sur le territoire. Et donc, pour ce qui est de cette opération de désamiantage, l'équipement en panneaux photovoltaïques des 800 toitures qui avaient été ciblées par l'étude dont on parlait, elle permettrait de produire l'équivalent d'un quart de la consommation électrique des habitants du territoire du parc naturel des Baronnies. Donc, c'est environ 88 communes, je crois. Or, actuellement, toute production des énergies renouvelables passe par le réseau national, qui est géré de manière nationale. Comment est pensé en fait le stockage et la redistribution de l'énergie produite par les différentes centrales villageoises sur l'ensemble du territoire français, j'entends?
Tout simplement, il y a un réseau national qui s'appelle RTE, donc réseau de transport d'électricité, et c'est lui qui est en charge d'acheminer l'électricité où elle doit être.
Il n'y a pas de stockage. Pour l'instant, ça n'est pas stocké. Ça part dans les tuyaux d'EDF. Vous voyez, parce que lui dit RTE, moi je vous dirais, c'est les tuyaux. C'est les tuyaux, voilà, Enedis. Et c'est redistribué tout de suite.
Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on est sur des installations en général de petite ou moyenne dimension. Donc, l'énergie qui est produite localement,
elle est pas colossale.
Elle va être réutilisée sur place prioritairement. Il n'y a vraiment que l'excédent qui passera par le réseau RTE.
on peut choisir déjà de redistribuer directement localement l'énergie produite localement.
Oh, c'est pas un choix. C'est même pas un choix.
C'est les lois de la physique.
D'accord. Parce que du fait que ça repasse par le réseau national, on peut aussi penser que la distribution se fait au niveau national, donc c'est plus centralisé.
Finalement. Oui, mais ça sera les excédents. L'électron, il est feignant, il va au plus court.
Et donc l'idée, au final, poursuivie par les centrales villageoises, est-ce qu'on peut dire que c'est de développer les énergies renouvelables pour que finalement ce soit les citoyens qui se la réapproprient et que justement ce système de distribution de l'énergie ne soit plus centralisé? Est-ce que c'est ça le projet final?
C'est essentiellement de faire de l'électricité renouvelable. C'est vrai qu'on est à l'heure actuelle, on réfléchit à des systèmes d'autoconsommation collective qui pourraient être faire partie de nos prochains projets. Mm-hmm. Mais c'est encore un petit peu tôt pour en parler. Ce sera la prochaine fois.
On prend tout de suite rendez-vous alors. Et quel est le rapport avec l'association nationale que vous entretenez, vous, à la Lance?
C'est un très très bon rapport et très intéressant. L'association nous fournit beaucoup d'outils de travail, qu'ils soient techniques ou qu'ils soient administratifs, du début des projets. Elle a vraiment, il y a vraiment tout un panel d'outils qui permettent d'avancer dans les projets. Et en plus, elle donne des conseils juridiques. Il y a des réunions régulières, soit en visio, soit en présentiel, qui permettent de rencontrer les autres centrales. Donc, c'est un échange permanent et c'est vraiment très, très intéressant.
Ça a été extrêmement précieux au démarrage.
Oui.
Je dirais que maintenant, on a un petit peu plus d'expérience, donc on arrive à être un peu plus autonome sur certains sujets. Mais l'intérêt aussi de l'association des centrales villageoises, c'est qu'il y a un partage d'expérience qui fait qu'il y a des échanges entre les différentes centrales pour traiter différentes difficultés.
Y compris
dans
les actions qui nous sont demandées, il y a la prise en charge des nouvelles centrales.
C'est-à-dire l'accompagnement, c'est ça ?
L'accompagnement, tout à fait. Donc, par exemple, sur Taulignan, Valréas, il y a des gens qui sont en projet et on les accompagne.
D'accord, c'est aussi ça, c'est l'entraide de manière proche, locale.
Oui.
Quand vont commencer les travaux alors sur l'exploitation de monsieur et madame Chaston ?
Ils sont commencés. Aujourd'hui, il n'y a plus de toiture.
Ah oui.
Le désamiantage a été réalisé la semaine dernière. Donc, il y a des analyses qui sont en cours pour vérifier qu'il ne reste pas de traces de poussière.
C'est fait.
Et normalement, donc, à partir de lundi prochain, on va attaquer les travaux de couverture en bac acier.
Et je crois qu'une inauguration publique est prévue. Quand est-ce que ça se passera ?
Courant juin, sûrement. On attend de voir que c'est tout bien fini, que c'est tout beau.
Avant de le montrer
aux autres. Et après, on montrera.
Martine Vimard, Yves Moineau, merci à tous les deux. Vous êtes membre des centrales villageoises de la Lance. En tant que vice-présidente pour vous, Martine, et en tant que conseiller technique pour vous, Yves, vous êtes venu nous voir pour évoquer votre récent projet qui consiste, pour le dire vite, à concilier opération de désamiantage des vieux bâtiments sur le territoire et installation de panneaux photovoltaïques. Ce dans l'objectif poursuivi par les centrales villageoises de contribuer au développement des énergies renouvelables et d'agir en faveur d'une réappropriation de cet enjeu énergétique par les citoyens et citoyennes depuis leur territoire. Merci à tous les deux.
Merci.
Merci. La vraie cousine, la cousine, la cousine, 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 cousine.
radiola.media.